choix. Choix. 98.1. Toujours.
Radio X.
Jeff Filion. 3,
2, 1. Radio X.
Le docteur Mathieu Simon est avec nous. Bon midi, docteur Simon. Comment allez-vous?
Bon midi, M. Filion. Ça va bien, vous-même?
Oui, bien, nous, ça va bien parce qu'on a du personnel et on est capable de livrer les choses qu'on nous demande. Un peu inquiétant de voir la situation de ce qui se passe un peu partout au Québec, toutes les histoires qu'on entend depuis le début de l'été. Et il semblerait qu'on s'en va vers des temps très difficiles. J'entends des chiffres que j'aime pas beaucoup à travers le ministère de la Santé, où il y a une certaine panique à l'approche du 15 octobre, mais aussi pour le futur, où on parle de quasiment 30 000, 40 000, 50 000 postes qui ne seront pas comblés dans les prochaines années avec les départs à la retraite et des gens qui sont plus motivés à être dans le réseau parce que ça va un peu mal. Quelle est votre situation d'abord dans votre hôpital, dans votre groupement d'hôpitaux, puis de ce que vous entendez un peu partout, c'est comment actuellement chez vous?
Vous avez bien résumé la situation. Écoutez, ici, ça fonctionne quand même bien, mais au prix de beaucoup de sacrifices du personnel qui fait un travail supplémentaire à ce qui devrait être fait, avec ce que ça a comme impact sur la mixité entre le travail, la famille puis le bonheur. Puis c'est vrai de partout dans le réseau. Il y a des endroits où c'est plus critique. Vous avez entendu parler d'Hôtel-Dieu de Lévis récemment. Les hôpitaux de Montréal, de Hull, sont sous haute pression. Au printemps, c'était Chicoutimi qui était en difficulté. Vous savez, M. Filion, le système de santé est fait pour fonctionner à peu près à 85-90% de ses capacités. Alors, quand on a un surplus de travail, comme ça a été le cas dans les 18 derniers mois, et quand on a un surplus de retraite ou d'absence pour toutes sortes de raisons qui sont justifiables, ben ça met le système à genoux, puis les genoux commencent à être passablement graffignés là, présentement.
Bon, là, il y a un amalgame de choses là, qu'on mélange de ce temps-là, parce que mon feeling, c'est que oui, la COVID a accéléré quelques affaires. Ça l'a provoqué beaucoup de gens qui étaient déjà tannés. Ça a comme été la goutte supplémentaire qui a fait que des gens qui ont abandonné le navire alors qu'on a besoin d'eux. Mais est-ce qu'on est capable de quantifier? Je veux dire, prenons votre hôpital. Vous, M. Simon, j'avais pas mal les chiffres les dernières fois qu'on s'est parlé. Je pense qu'on s'entendait pour dire que j'avais quand même les chiffres quotidiens. Puis on était capable de les avoir aussi au niveau public, de voir combien de cas vous aviez de COVID, etc., versus d'autres soins que vous avez à faire. Il y a des opérations routinières que vous devez faire à tous les niveaux. Vous avez des traitements à faire de toutes sortes de choses. Mais il arrive aussi à l'urgence l'influenza, la gastro, il arrive toutes ces choses-là qui sont des choses récurrentes. Donc, quand on compare, est-ce que, mettons, la COVID met la même pression que l'influenza ou la COVID met la même pression quand on a des éclosions de gastro à certaines périodes de l'année? En quantité, là, on est-tu capable d'avoir une image de ce que ça représente, de ce que fait la COVID par rapport aux autres choses avec lesquelles vous devez dealer et qui vous mettent souvent dans des situations de pression incroyables? À chaque année, on peut voir les articles dans les journaux. Est-ce qu'on est capable de faire une comparaison entre toutes ces choses-là pour nous montrer que soit que la COVID est vraiment plus gros que tout ce qu'on a eu, ou encore que vraiment on est dans une tempête parfaite depuis plusieurs années et qu'on était juste sur le bord de voir le building s'écrouler et que là, la COVID, c'était la goutte de trop?
C'est une belle et longue question. Je pense que vous avez raison que le building était fragile et que la COVID a été l'intempérie qui était de trop. Les trois premières vagues, avec du moins les deux premières, avec des employés qui n'étaient pas vaccinés, avec l'inquiétude qu'il y avait avec, ça a expliqué beaucoup, je pense, de congés de maladie, de départ à la retraite, de départ vers d'autres professions. Depuis la vaccination, à partir de janvier dernier, la majorité des travailleurs de la santé se sentent extrêmement soulagés d'être protégés. Mais ça n'empêche pas que traiter un patient COVID pour protéger les patients autour de lui, ça veut dire l'isoler, ça veut dire rentrer là avec un habit de cosmonaute. Et ça nuit très clairement à la satisfaction de tout le monde, que ce soit les médecins, les prévôts bénéficiaires, les infirmières, les inhalos, la satisfaction qu'ils retirent du travail et la complexification et l'efficacité du système. Et s'il faut que tu t'habilles, que tu te déshabilles, que tu te laves les mains avant, après et pendant, ben au lieu de traiter trois patients, tu vas en traiter un seul. Et donc, ça vient mettre une pression immense. Puis je vous dirais que le niveau actuel de COVID en dehors de la région de Montréal n'est pas le facteur principal qui fait déborder les urgences présentement. À Montréal, il y a à peu près 75 patients aux soins intensifs, ce qui représente grosso modo 15 à 16 % de leur capacité d'accueil en soins intensifs. Mais il faut réaliser qu'à Montréal, et puis partout au Québec, les unités de soins intensifs fonctionnent déjà à 90-95 % de leur capacité. Moi, pendant l'été, par exemple, je vais vous parler de notre expérience personnelle, on a réussi à fonctionner le service de chirurgie cardiaque et le service de chirurgie thoracique comme si c'était la saison régulière de travail et non pas la saison des vacances. Parce qu'on avait à cœur, puis je pensais partout dans le système, de rattraper les retards qu'on avait engrangés à cause des trois premières vagues, puis on a réussi sur un certain point. Mais c'est parce que ces gens-là qui ont travaillé pendant l'été, qui ont fait du temps supplémentaire, qui ça use, et il y a des gens qui commencent à avoir de la misère à suivre, si bien que là, alors qu'on est dans une période où tu te dis, sur papier, il n'y en a pas beaucoup de COVID à Québec. Il y a, je pense, à Québec et Lévis, hospitalisés, il y a présentement 5 ou 6 cas, pas plus que ça. Alors, on peut certainement pas se dire que c'est ça qui nous cause un problème, mais c'est l'usure des 18 derniers mois qui fait qu'on est coincé.
Dans votre coin, là, vous, là, parlons de votre hôpital, puis si vous avez de l'info sur le regroupement aussi, c'est la même chose. Il vous manque combien d'infirmiers, d'infirmières? Est-ce qu'il manque des médecins? Est-ce que vous avez un nombre? Est-ce que c'est, mettons, 15? Ah, bien, 15, on ne serait pas pire. Ou c'est 150? Combien vous en manque pour que vous soyez capable de fonctionner normalement?
Bon, en fait, on pense que le système de la santé, globalement, je n'ai pas de chiffre précis pour nous autres, mais écoutez, M. Fillon, c'est plus que ça. Là, c'est les techniciens en radiologie, c'est oui. Les gens qui s'occupent de la brancarderie, c'est partout pareil. Là, c'est des emplois de tout type. On pense qu'il manque à peu près 15% du personnel que devrait compter le système de santé. Si vous considérez qu'il y a quoi, à peu près 80 000 travailleurs de la santé directement dans les hôpitaux au Québec, ben faites le calcul, ça fait 10-12 000 personnes probablement qui manquent dans le réseau actuellement. Ces personnes-là, on les avait. Elles se sont dit, bon, la COVID, c'est pas pour moi, je prends ma retraite parce qu'ils étaient pratiquement dus pour le faire. Il y en a qui se sont réorientés vers d'autres choses. Puis il y en a qui sont tombés au combat pour toutes sortes de raisons, puis qui sont présentement à la maison et capables de revenir nous aider. Puis j'espère qu'ils vont se remettre le plus vite possible. Le problème, c'est que dans beaucoup de professions de la santé, même si on a un besoin immédiat, on l'a vu avec l'exercice un peu difficile des préposés aux bénéficiaires là, quand les CHSLD débordaient dans la première vague, on voit que c'est pas fait pour tout le monde, puis ça prend du temps former des gens qui travaillent dans le réseau. Donc, il faut que le réseau se réinvente, puis il faut que cette expérience-là, puis ça, c'est ce que j'espère sincèrement, ne décourage pas les plus jeunes qui se disent « qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de ma carrière ?» et qui considère que le réseau de la santé, même s'il y a ses faiblesses, ben, il fait ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde, c'est-à-dire qu'aider les autres. Puis ça, c'est fondamental à notre mission.
Est-ce que, on vient de le dire, là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de cas de COVID, mais on sait que, on le voit, peut-être que du moins dans le discours public, quand les politiciens nous disent, là ça fera ci, ça fera ça. On dirait qu'un cas... Une hospitalisation, même aux soins intensifs, c'est encore pire. Une de plus, c'est toujours une de trop. Même si les chiffres sont très, très bas et que c'est un peu dur pour nous autres de comprendre comment le système ne peut pas s'ajuster et pas être capable de prendre quelques cas, parce qu'on dirait qu'à chaque vague, par la diminution des employés, par les départs, soit à la retraite ou de changement de carrière, bien là, ça a mis une énorme pression sur le nombre de personnes qu'on peut accueillir. La première vague, on en avait beaucoup. La deuxième vague, on en avait moins. La troisième vague, on en avait encore moins. Mais on dirait que moins on en a, plus on est dans le trouble de par le fait qu'on manque de travailleurs. À votre hôpital, si, mettons, on a une quatrième vague puis que, finalement, il y a des hospitalisations plus... Mettons qu'on ne vient pas au chiffre de la troisième vague, celle du printemps. Là. Combien ça prend de personnes dans votre hôpital pour gérer ce problème-là? En pourcentage, je sais là, qu'en nombre, on ne réussira pas à l'avoir, là, mais déjà en pourcentage, une vague COVID, ça tire combien d'énergie en personnel dans un hôpital pour qu'on comprenne comment ça la met dans le trouble, cet hôpital-là?
Écoutez, je peux pas sûr que j'ai les chiffres absolus, mais juste pour vous donner un ballpark, là. Un patient COVID va rester 3 fois plus longtemps qu'un patient non-COVID dans l'hôpital, peu importe la raison pour laquelle il y rentre. Et il va utiliser 3 fois plus de ressources humaines de tout type, médecins, infirmières, inhalothérapeutes, parce que c'est des hospitalisations compliquées qui nécessitent de l'isolement. On s'habille, se déshabille entre chaque patient. Et donc, c'est ça qui fait que, vous voyez, pour un patient COVID aux soins intensifs, M. Fillion, là, c'est potentiellement 20 pontages à orthocoronarien que je ne peux pas faire parce que le lit de soins intensifs que je dédiais à ces 20 patients-là qui ont besoin d'une chirurgie à cœur ouvert ne pourront pas l'avoir parce que le personnel et le lit sont occupés par un patient COVID. Puis c'est pas comme si j'avais un banc des joueurs où je peux aller chercher 3-4 infirmières, inhalo, préposées, parce que là, il y a un COVID qui rentre. Il n'y a pas vraiment de liste de rappel. Tout le monde qui est apte au travail est au travail. Puis écoutez, mes amis et collègues infirmières, inhalothérapeutes, nosobénéficiaires ont fait des chiffres épouvantables pendant l'été, puis pendant les 18 derniers mois pour pas que le système craque. C'est sûr que là, ils prennent un peu personnel pour certains d'entre eux, le fait d'être pointé du doigt par la vaccination obligatoire. Je pense que les travailleurs de la santé en général sont très dédiés, mais là, après 18 mois d'efforts immenses dans un réseau qui, comme vous le dites, est fragile de façon chronique, mais ils ont l'impression que c'est encore eux autres qui payent le prix. Puis ça, c'est difficile pour le moral, disons. Mais dans les faits, on va encore se relever, puis on va encore retrousser nos manches, puis on va être prêt pour la quatrième vague, en espérant que ce soit la dernière, puis en espérant. Puis je pense qu'on peut l'espérer, M. Fillion, parce que les Québécois ont répondu très favorablement à la vaccination. Je pense qu'on peut espérer que la vague soit limitée dans le temps et dans l'ampleur, mais bon, je n'ai pas de boule de cristal. Pour l'instant, je suis relativement réassuré par l'évolution des chiffres qu'on voit à chaque jour.
Jeff, j'aurais une question pour le
oui.
Dr Simon. Dr
Vas-y,
Simon,
Camille.
Vous avez dit un chiffre magique là, qui pourrait manquer environ 12 000 personnes dans le réseau de la santé. Vous venez de parler des gens qui seront non vaccinés. Je vous rappelle que dans un mois, ça prend la vaccination obligatoire 2 doses pour travailler. Sinon, c'est des suspensions sans solde. Comment vous vous sentez, vous, de savoir qu'on va se priver d'une main-d'œuvre qui, en ce moment, est criante? Là? Au final, c'est les vaccinés qui vont payer. C'est ces gens-là qui auront une surcharge de travail. On n'est pas gagnant là-dedans. Là.
Je me sens très mal, Camille. Merci de la question. Puis en fin de compte, quand vous regardez ça, c'est l'image de la société. Présentement, vous parliez tantôt là, du festival Western, vous parliez de mariages qui ont donné lieu à des complexités extraordinaires de santé publique. C'est tous les vaccinés qui payent pour protéger les non-vaccinés ou les non-vaccinables, si on pense aux enfants ou à d'autres types de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, qui ne sont pas nombreuses. Camille, la question, puis il n'y a pas de bonne réponse à celle-là. Alors, tu as le choix de ne pas imposer la vaccination au travers de la santé, de supposément garder ce 5 à 10% de travailleurs au travail, mais avec un risque de contaminer des personnes qui ont des cancers, qui ont des greffes d'organes, qui ont des immunosuppressions de tout type, chez qui le vaccin n'a pas tenu parce que leur système immunitaire n'est pas prêt à le recevoir. Donc, les contaminer, puis il y a eu des décès liés à ça lors des premières vagues, des contaminations intra-hospitalières. Ou bien tu te dis, je ne prends pas de chance pour mes patients, puis malheureusement, je mets une menace administrative qui est importante en me disant, ben écoute, ça va probablement être suffisant pour faire comprendre à la majorité que les arguments contre la vaccination entrent en conflit avec l'idée de protéger ton patient et de, premièrement, ne pas lui nuire. Et puis, écoutez, s'il y a 5% des gens qui quittent le navire, ben, est-ce que c'est mieux d'avoir 5% des gens qui quittent le navire puis qu'on va se resserrer les coudes ou d'avoir des patients qui contractent la COVID parce qu'on n'a pas été assez rigoureux dans notre protection de ceux-ci.
Mais docteur,
c'est un dilemme insoluble. Oui, il n'y a pas de bonne réponse.
Mais docteur, si je vois une genre de question complémentaire, les employés qui sont pas vaccinés, les autres, ils se faisaient tester, je pense, 3 fois semaine ou je ne sais pas trop, vous savez. Est-ce que quand on le faisait, quand on les testait, est-ce que c'était efficace? Si oui, pourquoi qu'on les garde pas? Sinon, ben, on les envoie. Là, dans le sens que, est-ce que c'était efficace ces 3 tests-là par semaine?
C'est une très belle question, ça aussi. Les tests, un, sont pas parfaits. Vous pouvez être négatif alors que vous êtes en train d'incuber le virus, mais vous êtes contagieux. Ça peut prendre 24, 48 heures avant que le test devienne positif après que vous ayez commencé à être contagieux. Donc, un, pas parfait. Deux, c'est très dispendieux à administrer parce que pour qu'on gère les tests, il faut qu'il y ait des infirmières puis toutes sortes d'autres personnes au laboratoire qui les fassent rouler, ces tests-là. Ça consomme énormément de ressources qu'on n'a pas. Puis trois, vous savez, ici à l'UCPQ, organiser une clinique de tests, c'est pas trop mal. Mais lorsque vous êtes dans des plus petits centres, hein, les CHSLD, les cliniques privées, les cliniques en périphérie, les plus petits hôpitaux, ça vient gruger une ressource qui est immense, qui pourrait être mieux utilisée à traiter des patients. Alors, c'est pour ça que le test, même si ça a été une mesure transitoire, n'est pas une mesure qui fonctionne à long terme. Pas assez précis, trop tardif dans sa positivité.
Je comprends.
Et immensément complexe et dispendieux à administrer sur une large population.
Donc, ce que vous me dites, c'est que... Parce que la vaccination mur à mur, je regarde dans le monde entier, ça n'existe pas. Un des meilleurs taux, c'est le taux du Québec. S'il y a un endroit où on devrait le faire en dernier, puisque enlevons que le système de santé est précaire plus qu'ailleurs. C'est quand même spécial de voir que dans une conférence, les leaders politiques nous disent faut trouver un moyen d'engager des gens pour nous donner un coup de main dans les hôpitaux. Et d'un autre côté, on va se priver de ces gens-là. Moi, c'est, j'ai de la misère à si le protocole est bien suivi, je ne sais pas, moi, peut-être que les non-vaccinés peuvent être complètement dédiés à ceux qui sont là COVID puis qui ont déjà le virus au lieu de travailler avec des gens qui ne sont pas qui n'ont pas le virus actuellement puis qui sont peut-être à risque si ce personnel-là les croise puis qu'ils leur transmettent le virus. Mais il doit y avoir un moyen de ne pas perdre... Parce que, de ce que je comprends, on ne peut pas se priver d'un... Tu sais, peut-être une place normale où tout va bien, peut-être, mais le Québec va très, très mal depuis le début de l'été, entre autres. Il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des endroits qui n'accouchent même plus 3 jours par semaine. Je veux dire, comment on peut se priver d'une personne... en raison de son statut au niveau des vaccins. Je comprends le sens derrière ça, Dr Simon, puis je suis certain qu'on s'entend là-dessus, mais je veux dire, au-delà là, du fait de vacciner, pas vacciner, moi, je suis doublement vacciné, puis j'ai calculé mes affaires, puis c'est clair dans ma tête que je mets toutes les chances de mon bord, puis je veux pas y aller à l'hôpital, puis je veux pas en mourir, puis c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Ça, je peux comprendre ça. Surtout des gens dans le milieu de la santé, moi, je ne veux pas les voir partir. Je veux que si, mettons, je suis malade demain matin, tu sais, j'en ai un là en ce moment qui m'écrit, il attend depuis mardi pour des pontages, depuis mardi passé, donc il est là depuis une semaine, il est sur un lit en attente de la chirurgie, ça n'arrive pas parce qu'il y a de la pression puis il manque de personnel. Puis là, à partir du 15, ben ça se peut qu'au lieu d'attendre une semaine, il va attendre, lui, 2 semaines avant d'être opéré parce qu'il y aura encore moins de monde. Moi, ça me fait paniquer un peu, ça. Je me sens moins sécure de savoir que les hôpitaux vont être dégarnis de 5, 10 % d'employés. J'aime mieux les voir là non vaccinés que de ne pas les voir puis que finalement, je crève sous mon lit. Pas de COVID, mais je n'ai pas été opéré de l'urgence que j'ai besoin d'être opéré. Je ne sais pas si vous me suivez un peu.
Et Jeff, j'ajouterais aussi qu'on ne m'a jamais promis que le vaccin me protégeait à 100 % du virus. Là. Et on dit que les vaccinés peuvent même être porteurs du fameux virus. Je ne vois pas pourquoi on remettrait en doute l'efficacité des tests pour les personnes non vaccinées si, oui, au final, ça. Les doubles vaccinés sont autant dangereux.
Le lot de transmission est plus élevé. Le lot de transmission semble plus élevé après quelques mois de vaccination pour les gens qui sont vaccinés.
Voilà.
Donc, tout le monde est à risque pareil, même si les employés sont vaccinés.
Peu importe.
En fait, une personne vaccinée a moins de transmission, de risque de transmission de la maladie à d'autres. Juste pour vous mettre ça en perspective, là, un greffé cardiaque ou une personne qui a eu une chirurgie cardiaque qui fait le COVID, un pontage, là, la mortalité, c'est de 0,5%. À peu près, là, la chance de mourir de la chirurgie. Si tu attrapes le COVID pendant ton séjour hospitalier parce que tu as été en contact avec un employé qui aurait été non vacciné et qui était transmissible, ben ça vient de monter à 20-25%. Alors, prenez n'importe quelle entreprise privée qui décide de modifier une mesure ou qui a une mesure de réduire de ce facteur-là les risques encourus par ses clients, puis vous allez comprendre que le calcul est assez simple. Le prix à payer est immense, effectivement. Se passer de même 5 % de notre main-d'œuvre dans l'état actuel de la situation, ça va repousser des choses. Mais est-ce que votre auditeur est mieux d'attendre quelques jours de plus en étant absolument sûr que le système a tout fait pour pas qu'il ait 25 % de chances de mourir parce qu'il a attrapé le COVID après sa chirurgie cardiaque? Ou est-ce qu'il va être heureux d'attendre une semaine de plus, mais de savoir qu'il y a 0,5 % de chances de mourir au lieu de ça? Puis, écoutez, Jeff, c'est des très bonnes questions que vous posez, vous, Camille, et le reste de votre équipe. Il n'y a pas de bonne réponse. Puis, honnêtement, je n'aurais pas aimé être dans les souliers de M. Dubé pour prendre cette décision-là. Il a erré du côté de la prudence. Puis, c'est vrai que le vaccin n'est pas une précaution parfaite, totale, mais c'est quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on a, y compris les différentes formes de tests rapides de dépistage.
Ma dernière question, Dr Simon, je sais que je prends beaucoup de votre temps, mais on vous a, puis on vous parle pas souvent, mais quand on vous prend, on vous...
Vous posez d'excellentes questions, tous les trois, puis j'apprécie.
Regarde, j'y vais avec ma dernière. Je sais qu'on a beaucoup de misère à remettre en question un genre de modèle qui est comme... c'est comme quelque chose qu'on peut pas questionner, puis qu'on peut pas... Puis je sais que c'est la loi fédérale de la santé, mais à un moment donné, il va falloir avoir cette discussion-là. Depuis 30-35 ans, vous êtes dedans. C'est dur de garder le personnel pour toutes sortes de raisons. Est-ce que le gouvernement, d'avoir le monopole de donner les opérations à un ministère, puis on parle pas là d'assurance pour que tout le monde ait des soins. C'est pas de ça que je parle. Je parle de donner les soins. Est-ce qu'à un moment donné, après avoir essayé toutes sortes de choses, de par tous les moyens, on centralise, on décentralise, on recommence, on défend encore, finalement, on a des problèmes chronique depuis plusieurs décennies. Est-ce que c'est possible, à un moment donné, qu'on fasse comme les autres pays dans le monde et qu'on arrive avec un plan mix où il y a les deux, le public, le privé? Tout le monde se fait soigner et voir par un médecin gratuitement. Là. C'est pas de ça qu'on parle. Là. Je sais, quand on soulève ça, les gens, tout de suite, ils se braquent là, parce qu'ils ont peur qu'on parle de carte de crédit. C'est pas de ça que je parle. Mais de donner les soins pour qu'il y ait une compétition, un peu comme on le fait dans les écoles semi-privées avec les écoles publiques, ça a motivé tout le monde à être meilleur. Est-ce qu'à un moment donné, on va remettre en question ce modèle-là? Parce que là, c'est un constat d'échec qu'on fait. Là.
Vous avez, écoutez, Jeff, le constat est le bon et le système évolue déjà vers une mixité. Ce qui est important, c'est que les maladies aiguës, dangereuses, dispendieuses soient prises en charge pour tout le monde. Puis plus on va vers de l'électif, puis l'électif, ça c'est très difficile à définir, mais ça se définit un peu, plus effectivement on peut faire des choses qu'on j'appellerais pas nécessairement dans le privé, mais en dehors des hôpitaux. Voyez-vous, pendant la période COVID, nous autres, à l'IUCPQ, on a trois missions, le cœur, le poumon et l'obésité. Et nos chirurgies de l'obésité, qui font des miracles pour traiter le diabète, l'apnée du sommeil et compagnie, ne pouvaient plus se faire pendant la période COVID, du moins se faisaient beaucoup moins parce qu'on considérait que les chirurgies cardiaques, les chirurgies pour cancer du poumon étaient plus prioritaires, entre guillemets, oui. Même si c'est des chirurgies importantes. Ben, l'hôpital s'est organisé pour faire un joint venture, si vous voulez, avec une clinique privée où, à travers le réseau, je ne connais pas les détails de l'entente, mais à travers le réseau public, on opérait dans une clinique qui était en dehors de l'hôpital, des patients choisis parce qu'ils n'étaient pas très malades et qu'ils n'avaient pas besoin de toute la lourdeur de la structure hospitalière pour faire un excellent devenir. Puis d'ailleurs, cette expérience-là se déroule très, très bien. Et il y a un paquet de ces initiatives-là un peu partout dans la province. Puis effectivement, M. Fillon, je pense que il va falloir se demander, l'hôpital, c'est le porte-avions du système de la santé. Mais des fois, t'as pas besoin de mettre un porte-avions à l'eau pour aller chercher un chat qui est en train de se noyer. Alors, des fois, juste le bateau gonflable peut faire l'affaire.
Oui.
Une plus petite structure avec
une salle d'opération, plus petite, mais capable pour certaines opérations où tu n'as pas besoin nécessairement d'être hospitalisé, que tu peux... Donc ça, c'est déjà au moins un commencement. Il y a une ouverture. C'est sûr que ça arrive souvent quand il arrive un moment de pression comme ça. On se rappellera, il y a longtemps, qu'on envoyait des gens qui avaient le cancer se faire guérir je sais pas si c'était à Plattsburgh ou Burlington, mais on l'avait déjà fait un peu. Donc vous pensez qu'on s'en va tranquillement vers ça?
Mais vous avez raison. Puis d'ailleurs, le réseau est un peu comme ça. Il y a beaucoup de chirurgie pour l'œil, de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie plastique à maintenant de la chirurgie bariatrique qui se font en dehors du réseau traditionnel. Et c'est sûr qu'il faut baliser ça pour que les personnes qui choisissent d'aller là aient pas des frais supplémentaires ou une médecine de moindre qualité. C'est toujours notre préoccupation. Le réseau de la santé au Québec, même s'il est lourd, même s'il est lent, a une qualité qui est pas reconnaissable nulle part ailleurs dans le monde ou presque, là, je vous dirais, en moyenne. Alors, il faut conserver ça, puis c'est sûr qu'on va de l'avant de façon très, très prudente parce que, vous voyez, moi, j'ai été impliqué dans ce projet-là parce qu'une des questions qui se posait, c'est admettons que le patient, même si ça doit très bien aller, à combien de temps ça prend pour qu'on lui achemine une transfusion sanguine si, par hasard, il devait se mettre à saigner en post-opératoire. Alors, on a fait des calculs pour ça, on a fait des simulations. Ça prend du temps, ça prend penser en dehors de la boîte, mais je pense que le réseau est en train de penser en dehors de la boîte. Puis vous savez, ce qui va peut-être sortir de ce grand trauma qu'est la pandémie, c'est justement des initiatives comme celle-là. En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le réseau. C'est la première fois que je vois le réseau se re-questionner autant puis aller aussi vite dans la mise en place de son évolution.
Puis Au moins, on commence à le faire.
Quand la pandémie sera passée, qu'on ne revienne pas à nos bonnes ou mauvaises habitudes.
Oui, oui. Hey, merci, M. Simon. C'est très généreux de votre part de nous jaser.
Merci à vous tous, puis bonne semaine.
Merci.
Merci.
Docteur Mathieu Simon, excusez-moi, je vais vous dire qu'il est devenu régulier. Donc, on la voit dans tous les médias, puis nous jaser un peu. Regarde, font partie des médecins qui aiment jaser. Il n'y en a pas beaucoup. On est très chanceux de l'avoir. Donc, puis en plus, c'est des gens qui travaillent très fort. Donc, on vient de passer une petite demi-heure avec lui.